Pour cette troisième carte blanche de Civis Podcast, c'est Aurélien Bernier qui nous présente les réponses à la crise qu'il aimerait voir émerger après le confinement. Aurélien Bernier est essayiste, conférencier et collaborateur au monde diplomatique. Il a beaucoup écrit sur la démondialisation et les problématiques écologistes en France, en Europe et dans le monde. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages comme « La gauche radicale et ses tabous » édité au Seuil en 2014 et de trois livres aux éditions Utopia, « La démondialisation ou le chaos »,« Les voleurs d'énergie » et plus récemment « L'illusion localiste » sorti en janvier 2020. Cette carte blanche s'articulera autour de trois questions posées à l'invité et nous espérons qu'elle vous plaira. Nous assistons à un retour en force des théories démondialisatrices et des appels à la relocalisation des chaînes de production. Est-ce que ça vous semble une réponse intelligente à la crise ?
Depuis le début de la crise sanitaire en France, on a vu les médias s'intéresser à des questions qui ne les intéressent absolument pas d'habitude, à savoir la relocalisation, voire même la démondialisation. Donc on a vu Arnaud Montebourg, par exemple, invité dans la presse. On a vu un certain nombre d'articles, y compris dans la presse économique, parler de relocalisation. Le problème, c'est qu'on parle de démondialisation, mais on en parle mal. Je crois qu'il faut revenir aux origines de l'idée de démondialisation pour bien comprendre de quoi il s'agit. En fait, l'origine, c'est un article de Bernard Cassen, ancien président d'ATTAC, qui travaillait au monde diplomatique, un article qui s'appelle « Démondialiser pour internationaliser ». On a eu ensuite un livre d'un altermondialiste philippin qui s'appelle Walden Bello. Et en fait, l'idée de démondialisation vient du mouvement altermondialiste et c'est une idée radicale. Alors pour comprendre la démondialisation, il faut commencer par comprendre ce qu'est la mondialisation. La mondialisation est un transfert de pouvoir aux multinationales, aux grandes entreprises, grâce à un ordre commercial qui est le libre-échange, c'est-à-dire grâce à la libre circulation des marchandises et des capitaux. Alors pourquoi le libre-échange consiste à transférer du pouvoir aux entreprises ? Eh bien parce que le libre-échange permet de délocaliser des segments de production ou des productions entières, même dans des pays à bas coût de main-d'œuvre, et ensuite d'importer ces productions sans avoir à subir d'obstacles, que ce soit des taxes, des droits de douane ou des obstacles réglementaires qui viendraient véritablement entraver le commerce. Alors ce libre-échange permet bien sûr de réduire les coûts de production pour les grandes multinationales et donc d'augmenter leurs marges, mais ça permet surtout d'organiser un chantage à l'emploi, un chantage quasi permanent. Et grâce à ce chantage, les grandes entreprises peuvent éviter toute véritable contrainte sociale ou environnementale. Il suffit souvent de menacer de délocalisation quand une grande entreprise n'est pas satisfaite d'un projet de réglementation sociale ou environnementale. Il suffit de menacer de délocalisation pour que les gouvernements cèdent. Et comme on ne peut pas contraindre les grandes entreprises et les détenteurs de capitaux, puisqu'on est toujours soumis à ce chantage aux délocalisations, eh bien, on va chercher plutôt à les attirer, c'est-à-dire à leur offrir des conditions favorables, là encore, que ce soit en matière de droit du travail, d'âge de départ à la retraite ou en matière de réglementation environnementale. Donc, on cherche la compétitivité permanente par la dérégulation, c'est-à-dire par le recul de l'intervention publique. Et puis, on va même jusqu'à pratiquer des politiques d'austérité qui sont quasiment dictées aujourd'hui par les multinationales, puisque les agences de notation notent non pas les États, mais la dette des États, ce qui revient quasiment au même. Et les États sont incités, sont encouragés à mener des politiques de réduction des dépenses publiques. Donc voilà le schéma infernal dans lequel nous enferme la mondialisation. Alors comment peut-on sortir de ce schéma ? Eh bien, en retirant ce pouvoir du chantage aux délocalisations aux multinationales et en remettant les multinationales sous contrôle politique. D'où l'idée de Bernard Cassen qui est de dire qu'il faut retrouver des possibilités de réguler l'économie et cela ne se fait pas dans un vaste espace de libre-échange. Il faut donc nécessairement des formes de protectionnisme, sans quoi les multinationales pourront continuer à fuir la contrainte. Un autre altermondialiste, Walden Bellow, développe cette idée de démondialisation, non pas dans un article, mais dans un livre. Et son propos, très proche de celui de Bernard Cassen, est aussi très clair. Le contrôle des marchandises et des capitaux vise à contrôler l'activité des multinationales. Et Walden Bellow, qui parle depuis les Philippines, pense bien sûr avant tout aux multinationales occidentales. Il défend la cause des pays du Sud. Et c'est pour ça que la démondialisation poursuit la réflexion des pays les plus radicaux parmi les pays non alignés qui, dans les années 50, 60, 70, voulaient changer, transformer l'ordre international. Un intellectuel comme Samir Amin, par exemple, ne parlait pas encore à l'époque de démondialisation, mais il parlait de déconnexion. Et derrière, c'était une idée tout à fait comparable, où il considérait qu'il fallait rompre avec l'ordre international et notamment avec l'ordre économique. Alors quand on pose le problème ainsi, on voit bien que la question n'est plus seulement de savoir s'il faut réindustrialiser la France, la question est de changer l'ordre économique et commercial, et même plus globalement les relations internationales. Or, les relations entre États ne changeront pas si l'on ne sort pas d'une logique de concurrence pour essayer de passer à une logique de coopération. Alors en 2016, j'ai sorti un livre, La démondialisation ou le chaos, dans lequel je reprenais cette idée de rupture avec l'ordre économique et de refonte des relations internationales, et j'essayais de décrire comment nous pourrions y arriver aujourd'hui, en partant de la situation dans laquelle nous sommes enfermés, c'est-à-dire la situation de mondialisation de l'économie. Alors pour reprendre du pouvoir sur les multinationales, oui, il faut du protectionnisme. Mais pas n'importe lequel et pas seulement du protectionnisme. Pas n'importe lequel parce que l'objectif n'est pas de faire du protectionnisme pour défendre les intérêts des entreprises et des multinationales françaises ou pour les relancer dans la concurrence internationale. Il ne s'agit pas de faire du protectionnisme toutes choses égales par ailleurs. Il s'agit au contraire de reconnaître un droit au protectionnisme pour tous les peuples. Pas seulement pour la France ou pour les pays européens, mais aussi pour l'Algérie, pour le Burkina Faso, l'Argentine. Tous les pays doivent pouvoir protéger leur économie, doivent pouvoir se protéger des abus des grandes firmes étrangères. Et ça, qu'il s'agisse de firmes américaines, de firmes allemandes ou de firmes bien françaises, comme par exemple le pétrolier Total. La démondialisation ne se résume pas au protectionnisme, au contraire, puisque ce qui est au cœur de l'ordre économique actuel, c'est l'échange inégal, c'est-à-dire le fait que les pays du Sud fournissent des matières premières à bas prix aux pays qui dominent l'économie mondiale. Et on comprend bien qu'il ne suffira pas que des pays du Sud mettent en place des mesures protectionnistes pour que cette domination s'arrête, compte tenu de la puissance assez colossale des multinationales occidentales. Si on veut vraiment parler de démondialisation, il faut bien mesurer ce que ça signifie. Alors oui, c'est la relocalisation d'activités en France avec des mesures protectionnistes, mais sans doute aussi avec des mesures qui seront bien plus radicales. Pourquoi ? Parce que des taxes aux frontières, des mesures protectionnistes classiques permettront peut-être de relocaliser certains secteurs d'activité, mais ne seront pas suffisantes pour les contrôler. Et dans certains secteurs, on doit avoir un contrôle public de la production, et c'est pour ça que je pense qu'il faut défendre de véritables nationalisations. Par exemple, dans un secteur comme l'énergie, ou dans un secteur comme celui de la santé, avec la fabrication de médicaments, que, à mon avis, on ne peut pas laisser entre les mains des entreprises privées. Si on veut vraiment parler de démondialisation, il faut aussi dire que cette relocalisation ne vise pas à gagner en compétitivité dans la concurrence internationale. L'idée, l'objectif est de sortir de cette logique de concurrence. Et le fait de relocaliser permet avant tout de contrôler politiquement l'activité économique et d'être capable de mettre des règles et de faire respecter ces règles. Et donc, on est dans une logique d'affrontement avec les grandes puissances économiques. Et ce n'est pas du tout la même chose que du protectionnisme qu'on a pu connaître à certaines époques ou dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, même encore à l'heure actuelle, où eh bien, le protectionnisme sert les intérêts, à un moment donné, des grandes puissances économiques du pays. Non, là, l'objectif est, au contraire, de reprendre un contrôle politique sur l'économie. Et puis, parler de démondialisation, c'est parler de rupture avec l'ordre international, c'est penser, essayer de penser un nouvel internationalisme, l'internationalisme du XXIe siècle. Alors, je crois qu'il y a deux leviers essentiels. Le premier, c'est de faire cesser le pillage des pays du Sud par les multinationales occidentales. Et ça veut dire, d'une part, punir les crimes économiques, c'est-à-dire que quand une entreprise française viole des réglementations sociales ou environnementales à l'étranger, eh bien, elle doit pouvoir être sanctionnée. Et puis, ça veut dire eh bien, payer au juste prix les matières premières. Et pour ça, on sait pertinemment qu'on ne peut pas compter sur les grandes entreprises privées, sur la générosité des grandes entreprises privées. Donc c'est pour ça que je défends la création de monopoles publics pour l'achat des matières premières qui permettraient de négocier directement avec les États producteurs et de les payer correctement. Le deuxième grand levier pour un internationalisme du XXIe siècle, c'est bien sûr la coopération. Coopération qui peut se faire dans tout un tas de domaines, dans le secteur des services publics, dans la recherche, dans l'éducation, dans le transfert de connaissances. Et un pays comme la France a des capacités sensationnelles pour coopérer avec le Sud. Voilà ce que je mets derrière le terme de démondialisation, c'est-à-dire pas seulement des aménagements à la marge, mais un véritable projet de rupture avec l'ordre économique international.
Vous avez écrit « L'illusion localiste », l'arnaque de la décentralisation dans un monde globalisé. Pourquoi cette décentralisation que de nombreux élus locaux appellent à accentuer en réponse à la crise n'est-elle pas la solution ?
Face à la mondialisation, beaucoup disent que le local permettrait de changer les choses plus sûrement qu'en passant par le national, que par la prise de pouvoir au niveau de l'État. On entend souvent ce discours dans les milieux écologistes, libertaires, dans une bonne partie de la gauche, car effectivement, le local est un des rares moyens d'action qui nous reste. Il ne s'agit pas de nier son utilité, parce qu'effectivement, on peut créer des espaces pour vivre mieux dans son quartier, dans sa ville, dans sa campagne. On peut développer des circuits courts alimentaires, on peut développer des solidarités de proximité. Donc je ne sous-estime pas l'importance de l'action locale, au contraire. Mais de là à dire qu'on peut changer le monde par le local, non. Non, bien sûr, c'est pas possible pour plusieurs raisons. La première raison, c'est une question d'échelle de lutte. Les multinationales ont gagné un pouvoir considérable, sont devenues des monstres économiques, industriels, financiers. Et même en multipliant les actions locales, en faveur des circuits courts par exemple, ce sera insuffisant pour se défaire de firmes comme Nestlé, comme Coca-Cola, comme Monsanto, etc. D'autant que si ces multinationales se sentent un jour menacées par des initiatives locales, ce qui aujourd'hui n'est encore pas véritablement le cas, mais si un jour elles se sentent menacées, eh bien elles les écraseront d'une manière ou d'une autre. Par exemple, en cas de crise, eh bien on sait que les grandes multinationales résistent beaucoup mieux que les petits producteurs et que finalement, eh bien c'est elles qui sortent gagnantes des crises économiques. Le pouvoir des multinationales est si important qu'il s'impose partout, même si c'est de façon indirecte. Et on peut dire aujourd'hui, même si ça paraît un peu provocant, mais on peut véritablement dire qu'il n'y a plus d'économie locale. Alors, bien sûr, il y a des activités qui sont installées sur des territoires, mais ces activités, les petites et moyennes entreprises en France, sont totalement dépendantes d'abord des grandes firmes qui passent l'essentiel des commandes, mais aussi dépendante des prix des matières premières sur les marchés mondiaux. Même en Lozère, la plupart des activités économiques dépendent de l'économie mondialisée, soit parce qu'on a des prestataires, des sous-traitants de grandes firmes, soit parce qu'on a des acteurs qui sont dépendants des bourses. Par exemple, des agriculteurs qui vont vendre leurs céréales en fonction des prix sur les marchés mondiaux. Donc, l'économie internationale est présente partout. Le second problème est celui de la pertinence du local en matière d'organisation de la production. C'est-à-dire que même si on se déconnectait de l'économie mondialisée, on peut imaginer une certaine autonomie pour certaines productions ou certains services, comme par exemple l'alimentation, comme des activités de réparation, voire éventuellement des matériaux de construction, si on revient à des techniques moins standardisées. Mais ça ne marche pas pour tout. Ça ne marche pas pour fabriquer des machines à laver ou des ordinateurs. Ça ne marche pas pour faire des rails de chemin de fer, pour fabriquer des bus ou des rames de tramway. Ça ne marche pas pour fabriquer des scanners pour les hôpitaux ou des produits pharmaceutiques. Nous n'aurons pas des usines pour les produire dans chaque canton, ni même dans chaque région. Il faut donc une planification nationale pour tout un tas d'activités. Et donc, qu'on le veuille ou non, une forme d'État pour organiser cette production. Enfin, sur la question du localisme, il y a l'arnaque de la décentralisation. La décentralisation qui est une vieille idée parce que les pouvoirs locaux, les notables locaux ont toujours réclamé leur part du pouvoir politique. Eh bien, cette vieille idée a été reformatée pour lui donner un côté démocratique et pour la rendre acceptable. On fait croire qu'on rapproche le pouvoir du citoyen et que ça permet davantage de démocratie. Mais c'est un mensonge, c'est même un mensonge éhonté. En fait, la décision politique, la vraie, ne cesse de s'éloigner. C'est le contrôle presque total des circuits économiques par les grandes entreprises privées. C'est aussi l'Union européenne qui absorbe de plus en plus de compétences qu'on lui transfère, que les États lui ont transférées volontairement. Et qui produit des normes juridiques qui maintenant s'imposent au gouvernement et au peuple. On dit qu'on rapproche le pouvoir du citoyen avec la décentralisation, alors que le démantèlement des services publics est commandé par l'Union européenne, qui va privatiser la poste, le train, l'énergie, qui réclame des coupes budgétaires pour les hôpitaux, etc. Et d'ailleurs, la décentralisation favorise la privatisation des services publics. Il suffit de transférer des compétences aux collectivités locales et puis, progressivement, de réduire leurs dotations, leur budget. Et à ce moment-là, si elles n'ont plus les moyens, eh bien, elles doivent réduire le service public et laisser la place au privé. Sans compter que certains élus locaux préfèrent accorder directement des aides aux entreprises, voire aux grands groupes, plutôt que de maintenir des services publics de qualité. Et donc, cette façon dont la décentralisation est utilisée pour masquer le désengagement de l'État et le recul des pouvoirs publics est un véritable scandale.
Et donc, quelle est l'organisation de l'État que vous aimeriez voir émerger ?
Concernant l'État, je crois qu'il faut commencer par se défaire d'une idée. C'est l'idée qu'on peut faire sans. Certains, à gauche notamment, nous disent que l'État a toujours été autoritaire, voire totalitaire, au service du capital. Alors, c'est vrai en grande partie, mais ça n'empêche pas que nous avons besoin de former une communauté politique nationale, ne serait-ce que pour défendre ce qui reste de services publics, d'État social en France, de solidarité territoriale. Sans État, comment est-ce qu'on pourrait garantir l'égalité des droits en matière d'accès aux soins, en matière d'éducation, d'accès aux besoins essentiels comme l'eau, l'énergie, bref, c'est impossible. Il y a une confusion grave en fait. L'État, ce n'est pas juste le gouvernement, sa justice, sa police, c'est aussi le service public, la péréquation tarifaire, les agents et les fonctionnaires qui, malgré les coupes budgétaires, assure des services à la population sur tout le territoire. Pour autant, il faut regarder en face ce qu'est l'État aujourd'hui. Et c'est pas beau, c'est même très moche, parce que nous sommes en face d'un État libéral, c'est-à-dire d'une institution mise au service des grandes puissances économiques et des détenteurs de capitaux. C'est une évidence, cet État libéral viole ouvertement l'esprit de la Constitution. Mais le moyen d'en sortir, c'est pas d'atomiser la communauté politique nationale. Ce à quoi revient la décentralisation, le localisme ou le séparatisme régional. Ce n'est pas de la rendre totalement impuissante au sein d'un vaste espace européen qui produit en permanence un droit ultralibéral, qui négocie en permanence des accords de libre-échange, qui impose l'austérité au peuple. Donc nous n'avons pas d'autre option que de transformer l'État libéral en État social. Et je l'admets sans problème, il s'agit d'une tâche énorme. Alors, il y a déjà un problème institutionnel, bien sûr, c'est-à-dire que tant que les institutions permettront ou organiseront la confiscation de la démocratie, nous serons cadenassés dans un État libéral. C'est pour cela que je trouve l'idée du RIC très importante. C'est pas le seul moyen de démocratiser les institutions, mais c'en est un et il est important. À condition, malgré tout, de sortir de l'ordre juridique européen, sinon le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, ne se limiterait qu'à poser des questions sans intérêt, car toutes les grandes questions économiques seraient dans l'espace réservé de l'Union européenne et donc seraient intouchables, on ne pourrait pas en débattre. À condition aussi de nationaliser une partie des grands médias afin que la classe dominante ne dispose plus de ce pouvoir démesuré de faire l'opinion majoritaire. Mais à ces conditions, le référendum est une bonne façon de renforcer la démocratie. Mais il faut aussi des changements en matière de démocratie locale, car les institutions locales sont encore moins démocratiques que les institutions nationales. Les maires ou les présidents de départements, de régions ont la possibilité, parce que les institutions leur donnent, de se comporter en parfait autocrate. Et ce n'est pas le cas de tout le monde, mais certains ne s'en privent pas. Donc je crois que nous devons aller vers une démocratie beaucoup plus directe, pour les affaires locales, là aussi avec des référendums locaux ou avec des conseils citoyens sans qui les décisions ne pourraient pas se prendre. Mais le problème institutionnel, malheureusement, n'est certainement pas le plus complexe, en tout cas en théorie. Il y a ensuite un problème hautement politique qui est que nous allons devoir affronter les multinationales. Donc changer les institutions peut aider, mais ne suffit pas. On a un exemple qui le montre très bien, c'est celui de la Suisse, avec des institutions qui sont plus démocratiques que les nôtres, objectivement, mais en matière de justice sociale, eh bien, ils sont très loin du compte. Donc il faut un projet de reprise en main du politique, donc du peuple, sur l'économie. Il faut des revendications claires. Il faut des mouvements sociaux, une prise de conscience, un projet qui soit diamétralement opposé à celui de la mondialisation néolibérale. Et donc c'est là que l'idée de démondialisation est essentielle, car, à mon sens, elle donne une direction claire et une direction cohérente.
Merci à Aurélien Bernier pour cette carte blanche passionnante. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou sur nos différents réseaux sociaux. Les cartes blanches de Dominique Meda et de Daniel QF sont toujours disponibles sur toutes les plateformes de podcast et de nouvelles sortiront bientôt.